On enchaîne avec Artemisa qui va nous parler des élections présidentielles 2006 au Mexique.
Oui, bonjour. Je suis membre de l'association Survie. Mais aujourd'hui, je viens pour parler d'une expérience que j'avais vécue pendant les élections de l'année dernière au Mexique. Donc, avec la même idée que Véronique avait mentionnée sur tous les changements qu'on a vécu à l'Amérique latine, on avait pensé, ça c'était mon idée avant d'arriver au Mexique, de que les candidats qui étaient, bon, qu'on pensait qu'ils pouvaient gagner, c'était les candidats de gauche, Manuel López Obrador. Donc avec cette idée-là, je suis arrivée au Mexique pour voir comment serait le processus démocratique, entre guillemets. Mais avant d'arriver au Mexique, il avait dans la notice, dans les journaux, et disant, on savait au début que les élections sont toujours organisées pour l'Institut fédéral électoral. L'Institut, c'est doit être un organisme indépendant. Mais donc, on savait que le président actuel du Mexique, élu en 2006, c'était le témoigne de le mariage de le président de cet institut électoral, fédéral électoral. On savait ça et aussi on savait que ce même institut avait fait pour faire le système informatique au Mexique de vote serait une entreprise liée à la famille du président actuel élu de Mexique. Donc ça c'était avant les élections au Mexique. Pendant les élections, on a vécu, je pense que ça vous savez, il était une élection très serrée entre les deux candidats. Mais on pensait toujours que serait comme ça, mais on pouvait gagner, on avait l'espoir de que ce jour passerait, que ce sera pas la même chose qu'on avait vécu en 88 où les candidats de gauche avaient été bon. C'était un fraude électorale, mais vraiment flagrante. Maintenant, c'était différent. On avait, le même jour de la sélection, à 20h, l'Institut fédéral électoral, il ne peut pas donner un candidat gagnant. Donc, il avait dit, bon, on va avoir la nécessité de faire un autre petit compte de vote. Donc, ils sont passés quelques jours. Ils sont ouverts quelques scrutins, quelques boutons de vote. Mais c'était vraiment, on avait, dans ce moment-là, parce que j'étais là en train de voir comment ça passait l'élection, on avait vu que dans les systèmes informatiques, beaucoup de votes qui c'était pour les candidats de gauche, s'il avait 100 votes dans quelques boutons de vote, changeait toujours à la droite. Et donc, c'était une chose informatique, mais très subtile. Les personnes, les médias, bien sûr, sont toujours à côté de la classe dominante, et que c'est le pouvoir dominant au Mexique. Donc, même les personnes qui sont votées à gauche ne savaient pas exactement que c'était vraiment une fraude électorale. Donc, ça passait l'élection. On avait attendu la décision du tribunal. Et le tribunal avait dit oui, il a donné gagnant le président élu actuel, Felipe Calderón. Donc après ça, ça fait 2006, après le 8 juillet 2006, on avait vécu au Mexique une vague de beaucoup de résistance. Il y a maintenant beaucoup de mouvements qui sont faits. Après les élections, on avait sorti à la rue, je suis du nord du Mexique, mais on savait manifester au centre, à les Zócalo, la capitale, et on était 2 millions à se manifester, à exiger qu'on ne voulait pas. On avait vécu ça en 88, on avait dit non, c'est pas possible, c'est la 12e fois, on ne va pas laisser passer ça. Donc on avait fait du camping à Zócalo, j'avais resté seulement 15 jours, et il y avait des amis qui sont restés 2 mois, donc on avait fait des choses coordonnées partout la République. Mais bon, finalement, maintenant, vous avez aussi entendu parler Oaxaca. Donc, maintenant, la répression était très forte au Mexique. J'ai pas beaucoup de nouvelles maintenant. J'essaie de me de m'informer, mais c'est vraiment difficile. Les médias habituels sont pas, bon, ils donnent pas aucune information de ça. On ne sait pas exactement comment ça passe exactement à Oaxaca. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont disparues. On sait aussi qu'il y a, les uniques choses qu'on sait, que c'est des personnes qui sont mortes, sont des journalistes, une journaliste américaine, des choses comme ça, mais les faits, c'est que maintenant, on aimerait dire que dans l'Amérique latine, il y a un mouvement différent. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes conditions qu'à 88. Les personnes commencent à se mobiliser. Il y a maintenant, sont des manifestations qui ont jamais vécu au Mexique, qui ont jamais vu. Donc maintenant, on a vraiment l'espoir que ça va changer. On ne sait pas exactement, mais il y a beaucoup de personnes qui continuent à résister au Mexique, qui sont en train de faire des médias alternatifs, parce que ça, c'est une des choses qu'on peut faire pour s'informer. Il y a maintenant, je pense qu'il y a une condition de conscientisation de la population. Et donc, on continue à ça. Et maintenant, à Survi, moi, j'habite à Paris, mais j'essaie de m'informer pour savoir. Et beaucoup de personnes m'ont dit que bon, maintenant, il y a une violence très forte, mais en même temps, il y a une résistance très forte. Donc, on espère que ça changerait. La situation au Mexique, c'est pas la même dans beaucoup de pays de l'Amérique du Sud, parce que on est très proche des États-Unis. Ça, c'est pas la même situation, c'est difficile, parce que c'est pas la même chose que Venezuela, que la Bolivie, qui sont en Amérique du Sud, change à gauche, mais pour le Mexique, changer à gauche, ça représenterait beaucoup de choses. On le sait, et ça, malheureusement, a des effets pour nous, parce qu'on vraiment en croyait. Mais bon, c'est ça.
Alors, Kulsi qui...
Merci.
Kulsi rendra un hommage à Thomas Sankara tout à l'heure, dans un spectacle musical qui s'appelle Birkimbo.